Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106 sur HDR et Principe Actif. Tous les lundis à 18h, diffusé les samedis à 10h. Au programme aujourd'hui, les interviews des Salles Majesté et de Black Bomb A.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Influencé par le punk anglais de la première génération, les Salles Majesté appellent au réveil des consciences sociales. Alors quoi, ils seraient en retard? Non, puisque finalement on a toujours autant de raisons de faire du punk aujourd'hui qu'en 1977. On va vérifier tout ça dans un instant. On accueille Yves, le chanteur des Salles Majesté. Bonsoir à vous.
Salut.
Alors pourquoi on aurait autant de raisons de faire du punk aujourd'hui par rapport voilà, au début, au début du mouvement?
Bah parce que le nouveau monde, malheureusement, il est pire que l'ancien. voilà. Tout simplement, hein. On voit bien que c'est de pire en pire. Et donc, nous, on continue donc, à exprimer cette colère quoi, vis-à-vis de ça. Quoi, parce qu'à la base, il y a 30 ou 40 ans, le monde aurait dû être censé s'améliorer. Quoi. Ça aurait dû. On vit dans un monde qui n'a jamais été aussi riche. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a jamais eu autant de pauvres. Parce que voilà quoi. Enfin, voilà.
On va prendre le temps dans cet échange de revenir un peu sur votre vision du monde, comment vous le percevez, comment ça se traduit dans vos morceaux, dans vos textes, dans les albums que vous produisez. Mais moi, je voulais revenir un peu sur l'histoire du groupe. Vous avez commencé dans les années 80, le groupe a évolué, il y a eu pas mal de changements liés, j'imagine, à des histoires de vie. On a l'impression que c'est un peu le lot de tous les groupes qui ont une histoire un peu dans la durée. Pourquoi c'est aussi compliqué de garder le même line-up, les mêmes musiciens?
Parce que déjà, à la base, on n'est pas forcément professionnel, si tu veux. Donc, les gens travaillent et donc ils font ça le week-end, hein, puisque ça a été le cas des Salles Majesté pendant de nombreuses années. Donc, avec tous les côtés compliqués quoi, de cette vie, quoi, parce que en gros, tu travailles 7 jours sur 7. Parce que bon, c'est une passion, c'est un plaisir, si tu veux, mais voilà quoi. C'est donc ça engendre plein de problèmes sociaux, de boulot. Tu passes ta vie à changer de boulot. Perdre ton boulot parce que quand t'es musicien, tu vois, ça crée une certaine instabilité. Après, il y a des histoires de couple, surtout que nous on le fait à fond quand même, tu vois. Donc quand t'es parti tous les week-ends, c'est pas une vie, ça reste une vie de bohème, quoi. Tout simplement, c'est pour ça que, et puis il y a de la lassitude, hein, parce que bon, tous les groupes qui pendant des années tournent, forcément les line-notes, ils changent. Il y en a qui craquent, qui en ont marre, et puis voilà, quoi, c'est la vie, quoi.
Justement, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à avoir cette énergie, cette envie de monter sur scène, continuer à produire des disques? Évidemment, en plus, le punk, c'est quand même aussi une musique qui repose énormément sur l'énergie, sur ce qu'on dégage, notamment sur scène. Voilà. Qu'est-ce qui vous permet de garder ce truc-là?
En fait, c'est un peu notre vie. Tu sais, nous, on est quand même des quepons dans l'âme. Parce que nous, on aime bien la vie de bohème. On se pose, tu vois, on ne va pas trop réfléchir. On fait ça parce qu'on aime ça, parce que c'est notre vie, être dans le camion avec les copains, faire du bruit, de la musique, s'exprimer de la manière la moins fausse possible, en disant vraiment ce qu'on pense. Alors nous, on dit vraiment ce qu'on pense, je crois. Hein, et d'ailleurs, ça peut nous coûter cher et en même temps, on s'en fout, quoi. Tu vois, il n'y a pas de calcul, c'est notre mode de vie, si tu veux. Et c'est vrai que des gens peuvent se dire, mais pourquoi, tu vois, ça dure comme ça? Mais parce que c'est ça qu'on aime, quoi. On est comme ça. C'est-à-dire, nous, voilà, quoi, c'est le côté... On est des rockers, des vrais punk rockers. C'est notre vie, comme le mec qui va aimer, je sais pas moi, aller à la pêche tous les week-ends. Nous, c'est le punk rock. Nous, c'est notre façon d'être, de nous exprimer. Et c'est rock'n'roll, quoi.
Et d'être au monde.
Voilà, d'être... Surtout de s'exprimer, je crois.
Comment vous avez traversé le mouvement punk et son histoire le début des années 80.
De façon chaotique. je te dis, moi je fais ça depuis extrêmement longtemps. Je ne vois pas faire autre chose. Attention, j'ai travaillé, je sais ce que c'est les réalités du travail. puisque à un moment donné, il faut quand même bouffer, hein, faut quand même manger, parce que sinon, bah, tout s'arrête. Hein, mais cette vie-là, j'en changerai pas, quoi. Moi, le week-end, faut que j'aille voir les copains, qu'on aille faire de la musique, qu'on aille. Et puis il y a le côté combat, revendicatif, quoi. Et ça, enfin, moi, j'ai pas déposé les armes. Effectivement, il y en a plein qui se sont lassés, mais bon, je peux les comprendre.
Sur l'articulation entre voilà, la vie de musicien, de punk, de rocker, et la nécessité bah, voilà, d'aller gagner sa croûte, c'est aussi ça, peut-être, d'avoir un pied déjà dans une certaine forme de réalité, et pas seulement disparaître dans le feu des spots, ouais. Des plateaux de
bon,
télé.
Quand tu fais du punk rock en France, tu disparais rarement dans le feu des spots et de la télé. Hein. Je crois pas. Je crois que... Non, faut être réaliste. Tu vois, nous, on sait très bien qu'en faisant cette musique-là... c'est pas pour le pognon, hein. Voilà.
Et justement, il y a cette nécessité de travailler à côté pour pouvoir continuer, j'imagine, à produire ces disques, à mener cette vie
alors,
de bohème.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui pour les Salles Majesté, mais ce qui a été le cas pendant énormément d'années. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, faut être franc. Et nous, aujourd'hui, on est intermittents du spectacle parce qu'on fait assez de concerts. On a une notoriété qui nous permet de trouver assez de concerts. Et on va pas s'en plaindre. Bon, on est smicard hein, quand même, je rassure tout le monde. La Ferrari n'est pas encore garée devant la salle. Ça viendra peut-être un jour.
C'est un objectif, ça ?
Comment ?
C'est un objectif, la Ferrari ?
Non. Ah non, c'est pas un objectif. De toute façon, j'ai même pas de bagnole, hein, donc le problème est réglé. Mais non, ce que je veux dire, ouais, voilà quoi. C'est le côté vécu, tu vois, le social, parce que t'as le droit de faire du punk rock et de travailler. D'ailleurs, à la base, c'est un mouvement prolétaire. Hein. C'est les premiers groupes punk rock qui jouaient pour les prolos qui étaient à l'usine. Hein. Les Clash, les Sex Pistols. Quand on parle des influencés par le... Moi, c'est le côté social des Clash et des Sex Pistols qui m'a influencé, quoi. Le punk rock, c'est social. C'est une révolte sociale. OK, vous les riches... À l'époque, c'est un petit peu contre toute la mode hippie finissante, là, tous les groupes, les Rolling Stones et tout. Tout d'un coup, on est revenu aux bases classiques du rock'n'roll, quoi. Trois accords, voilà, quoi.
Vous en parliez un peu voilà, par rapport au début du mouvement punk, notamment en Angleterre, l'époque Thatcher. On était dans ce monde-là. Comment ça a changé le monde depuis cette époque-là ?
Il n'a pas changé le monde, hein, c'est toujours la crise. Hein. Moi, je ne sais pas, depuis que j'ai 15 ans, j'entends parler, c'est la crise. Il n'a pas changé, une crise qui n'a pas de sens. Parce qu'en fait, il n'y en a pas de crise. Les magasins sont pleins, donc normalement, il n'y a pas de crise. La crise, c'est quand il y a une pénurie, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de machin, il n'y a plus rien à bouffer. Donc c'est une crise, je ne sais pas, il n'y a pas de crise. C'est juste un problème parce que de redistribution des richesses. Mais techniquement, il n'y a pas de crise. Les magasins sont pleins. Pourquoi on construit une baraque, on construit un immeuble en 3 mois aujourd'hui. Donc pourquoi il y a des gens qui dorment dehors ? Parce que c'est juste un problème de redistribution des richesses qui effectivement est de pire en pire. Hein, parce qu'on est quand même sombré dans une économie de marché. Bon, si on fait un peu de politique, hein, c'est l'économie de marché, spéculation. Hein, c'est que les mecs, ils gagnent. Voilà, mais il n'y a pas de crise. À Rouen, les magasins sont pleins. Donc il n'y a pas de crise. C'est juste une vue de l'esprit. C'est-à-dire que la crise, c'est on ne sait pas comment redistribuer les richesses. Enfin, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une bande d'enfoirés là-haut, là, une belle bande d'enculés qui refuse de redistribuer les richesses de manière équitable. Point.
Par rapport à vos débuts, au début du mouvement punk, on le disait dans Stéro, de revendications sociales, ouais. Ce contexte-là. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont évolué ? C'est-à-dire que fondamentalement, ces inégalités et ce principe inégalitaire, il n'a pas évolué, mais qu'est-ce qui a changé par rapport au début du punk ou à vos débuts avec les Salmages ?
Ce qui a changé, c'est que c'est exactement la même. Les punks disaient nos futurs, ils disaient nos futurs. Et d'ailleurs, on dit nos futurs. C'est-à-dire que si on ne change pas de modèle de civilisation, c'est nos futurs. On va dans le mur. D'ailleurs, le climat, y en a qui sont sceptiques, mais là, quand même, on s'aperçoit qu'on va dans le mur. Je veux dire, faut arrêter. La transition écologique, c'est un mot. Il n'y a aucune transition écologique. On a plus pollué encore cette année que l'année dernière. Je veux dire, c'est du beau, c'est je t'embrouille, je prends du temps, c'est pas les mesurettes à 2 balles. Enfin, on voit bien que c'est pas vrai, quoi. Bon, à Rouen, en plus, vous êtes bien placé pour vous rendre compte que, en fait, les usines, elles n'ont jamais produit autant de produits chimiques et patati et patata que, voilà, enfin bon. D'ailleurs, en arrivant à Rouen, on a senti qu'il y avait une drôle d'odeur, tu vois. Et alors, il paraît que c'est qu'aujourd'hui.
Vers quoi on va alors ?
L'apocalypse est pour demain. Si je peux me permettre, l'album, pour faire référence à l'album qui s'appelle Overdose. Overdose, ça n'a absolument aucun rapport avec la drogue, c'est juste overdose de tout, quoi. De surconsommation, de produits chimiques, de voilà. La pochette est très très évocatrice. C'est sûr qu'à la radio ça se voit moins, mais voilà, c'est l'overdose complet. L'être humain est en overdose, et l'overdose, on sait comment ça finit. Ça finit mal.
Ce dernier album, là, Overdose, je rebondis dessus, c'est à la fois un condensé de l'état d'esprit punk, des thématiques qu'on retrouve, voilà, qui sont liées à cette histoire-là, et puis ce lien avec l'époque actuelle. Vous y abordez notamment les politiciens, leur corruption, leur action socialement destructrice, l'antifascisme, l'anticapitalisme, le désastre écologique, vous en parliez à l'instant, le mouvement des Gilets jaunes, le côté nos futurs nihilistes.
Ouais, il y a un côté photographie du monde, hein. Ouais. Dans cet album, comme dans celui-là particulièrement, effectivement. Ouais.
Et est-ce que c'est aussi quelque part une sorte de synthèse ou de quintessence de ce qu'est le punk qu'on retrouve, voilà, comme un jet, comme ça, comme un pavé?
Je pense que les groupes punk, c'est le côté, parle de la vie de tous les jours, en même temps des problèmes de tous les jours, des problèmes de la vie de tous les jours des gens de base, quoi. Hein. On ne parle pas des problèmes des riches. Si, alors quand on parle des riches, on les insulte. Ça, c'est normal, ça fait du bien. Parce que bon, nous, on a un côté, on va dire, un groupe engagé, tu vois, mais dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Engagé, nous, on est plus qu'engagé, si tu veux. Nous, on cite les gens. Nous, on nomme. Hein. Ce qui nous vaut quelques ennuis, si tu veux, parce que bon, tu vois, nous, quand on dit, nous, on ne critique pas les problèmes de la société, on critique les gens qui en sont responsables. Et on les nomme.
Ça vous a
Tu te fais censurer un peu, hein,
ouais,
quand même.
Des censures,
plus de radio, plus rien, plus de... Enfin, quand je dis tout ce qui est presse nationale et tout, on avait des articles il y a quelques années. Là, maintenant, c'est terminé. Ils ne veulent même pas entendre parler, quoi. Même sur certains festivals, les gros festivals, ils ne veulent pas entendre parler des salmages. Ah ben, c'est sûr, quand tu chantes Macron, Castaner...
Il y a eu des procès aussi ?
Non, allé pour l'instant, on n'est pas assez gros pour eux. De toute façon, on les emmerde, hein. Je te dis très franchement, personnellement... Ils viennent quand ils veulent, tu vois. Non, en France, ça se fait pas trop, ça.
C'est quoi votre regard sur les Gilets jaunes ? Il y a carrément un morceau qui est dédié dans
alors,
l'album.
Les Gilets jaunes, si tu veux, il est simple. Pour une fois, si tu veux, c'est un mouvement alors, populaire, des gens de base qui disent, qu'on n'entendait jamais, qui disent non. On en a marre de tirer la gueule à la fin du mois. Après, ça a été récupéré, manipulé par les médias, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les médias, c'est... Bon, mais à la base, c'est un mouvement populaire. C'est des gens qui disent, nous, on en a marre de crever la dalle, en gros, hein, de tirer la langue tous les fins de mois. Donc, on n'est pas d'accord. Alors, ça a commencé pour une histoire de pétrole. Et puis, ça finit comme ça. Et en fait, c'est bien de
voir. Est-ce que c'est fini, d'ailleurs ?
C'est pas du tout fini. C'est absolument pas fini. Ça, les médias disent, alors, il y a deux raisons. Déjà, il faut quand même savoir que pour moi, qui vais dans les manifs, qui me suis fait d'ailleurs défoncer la gueule par les CRS à coups de matraque, enculé, et je le dis parce que sans aucune raison, pas plus que les autres, pour y avoir été, hein, c'est vraiment, ça a changé par rapport à avant. Maintenant, ils ont des consignes, ils chargent. Si t'es là, tu te fais éclater la gueule. Que tu sois casseur, pas casseur, ils chargent et ils en prennent deux ou trois et les allument. Les gens ont peur, hein, maintenant d'aller dans les manifs. Hein. Il suffit de regarder sur le net. Hein, c'est des agressions abominables. Quoi. Voilà.
On disait que ce mouvement, il était pas fini. Il y avait encore...
Le problème n'est pas réglé.
Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Cette incapacité à trouver une traduction...
Cette incapacité à redistribuer de manière équitable les richesses, parce qu'il y a des gens qui se sont accaparés le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique, et on voit bien, ils refusent de redistribuer. En plus, on est dans une économie de marché, avec une spéculation sur tout, à longueur de journée, puisque, par exemple, je ne sais pas, le mec qui fait de la farine, il va acheter, tiens, j'ai le blé à Sydney, il coûte... je vais pas l'acheter en France, c'est comme ça, et c'est des jeux de marché comme ça. Nous, on le voit pas, si tu veux, mais en fait, c'est que ça, c'est que ça. Tu vois, c'est que ça.
Et pour terminer sur les gilets jaunes, vers quoi ça va ce mouvement ? Est-ce qu'il va lentement s'éteindre ?
Non, parce que le problème, il est pas. En fait, il s'éteindra pas. Il va repartir encore plus fort. pour moi. De toute façon, à un moment donné, il va y avoir un blocage, mais il n'y a pas qu'en France. Hein. Tu regardes au Chili, tu regardes partout dans énormément de pays, les gens ne comprennent plus pourquoi ils tirent tellement la langue. Quoi. Pourquoi ils... Parce que les magasins sont pleins, comme je te le dis. Donc les gens disent, mais attends, on se fout de notre gueule, on se fout de notre gueule, on se fout de notre gueule. Voilà. Et bon, voilà, c'est deux problèmes. Il y a deux problèmes sur Terre. La redistribution des richesses équitables et le problème de l'écologie et le climat. Voilà. C'est les deux problèmes. Si on ne résout pas ces problèmes, nos futurs. L'apocalypse, c'est pour demain, on est mort.
Fin du mois, fin du monde.
Fin du mois, fin du monde. C'est ça, ouais.
Et justement, sur le côté nos futurs, voilà, un peu l'emblème du punk, ça évoque le nihilisme. Et vous en parlez également dans ce dernier album, là, Overdose, il y a les morceaux Apocalypse. Voilà, ouais. On boucle la boucle sur ce qu'on est en train de se dire. Je crois en rien aussi, c'est un autre titre. Voilà, pourquoi faut continuer à vivre, notamment à faire des choses, à faire de la musique, dans votre cas, si tout est foutu?
Mais attention, nos futurs, c'est pas tout est foutu. Nos futurs, c'est la voie dans laquelle on est, si on continue cette voie, nos futurs. Si on dit, attention, c'est nos futurs, en fait, l'époque, ils disent, attention, vous allez voir. Ils le disaient en 77, vous allez voir la société, ça va partir en couille. Ben, ils avaient raison. Nous, on ne fait que continuer. C'est nos futurs si on continue comme ça. Si les gens disent pas à un moment donné, non, comme on fait les gilets jaunes. Parce que bon, vu comment on les a massacrés de façon... Parce que pour moi, Macron-Castaner, c'est des criminels, hein, ces gens-là. Hein. Les violences, c'est absolument insupportable. Ce que font les flics dans les manifs, c'est insupportable. Donc, eux, ils ont dit non. Voilà. Et donc, voilà quoi. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans cette démarche, dans votre démarche, ça rejoint peut-être cette idée de s'en prendre à ceux qui tiennent les rênes, mais cette envie aussi, quoi qu'il arrive, de choquer le bourgeois, parce que ça reste jubilatoire, ce côté
pas moi. Moi, si demain tout va bien, j'arrête. Hein. Si demain tout le monde vit bien, que la vie devient cool.
C'est quoi, c'est un engagement là?
Ouais, mais malheureusement, tu sais, malheureusement, si tu veux. Malheureusement, je sais que malheureusement, ça ne. Je pense qu'on arrive à une fin, d'un monde. Et que d'ailleurs, tout le monde le sent bien. Tout le monde, on arrive à la fin d'une civilisation. Enfin, il va falloir qu'il y ait une révolution, qui n'est pas forcément une révolution, une vraie révolution, quoi. Ce qui d'ailleurs explique peut-être pourquoi les gens qui gouvernent sont aussi vindicatifs et s'accrochent autant et sont aussi violents, parce qu'aujourd'hui la France c'est une dictature. Hein. Il suffit de voir comment on se comporte. La police c'est une dictature puisque tu te fais défoncer la tête pour un oui ou pour un non. Voilà, donc eux comme ils ont le pouvoir, qui veulent pas le perdre et puis qui en plus on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de gens qui ont le pouvoir, mais ils sont de plus en plus riches. Donc c'est voilà quoi, c'est une mainmise et quand ils sentent le danger, bah ils sont encore plus violents quoi. Vis-à-vis des peuples.
Un des éléments aussi fondamental au sein du mouvement punk, c'est le do-it-yourself. À l'heure où tout est devenu marchandisable, ça revêt quand même une dimension subversive qui quelque part préfigure peut-être le monde d'après, celui où on remet les liens au centre, le faire soi-même, le faire avec les autres. Est-ce que ce n'est pas justement des pierres, des briques qu'on se superpose petit à petit pour aller vers autre chose, le fameux monde d'après, après un effondrement de cette société thermo-industrielle où l'économie de marché
est reine d'elle-même. Hein. Celui qui détruit son environnement, toute espèce qui détruit son environnement disparaît. Hein. En fait, le do-it-yourself, bon, alors, chez les punks comme nous, là, c'est que parce que d'abord, d'une, on ne supporte pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Bon, déjà, tu vois, moi, si on me dit « Ah non, mais là, c'est tel morceau, tu vas faire ça comme ça et tout, ben, on va te faire reculer. » Donc déjà, nous, on est sûr que nous, on fera forcément les choses nous-mêmes. Voilà, c'est un peu un état d'esprit, ce qui fait que c'est un peu l'état d'esprit alternatif qui ne dit pas, tu vois, parce que qui fait que ça fait une autre musique. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans le punk. C'est-à-dire que en gros, c'est nous qui faisons la musique. Toi, à la rigueur, tu la distribues, tu fabriques le CD, mais la musique, c'est nous qui la faisons, quoi. Voilà. Mais donc, ça amène ce do it yourself, mais c'est effectivement, cet état d'esprit, il va dans d'autres domaines. Effectivement, dans les mecs qui se mettent à faire de l'agriculture bio, qui fait des petites. En fait, c'est l'esprit punk, hein, quelque part, tu vois. C'est l'esprit punk au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'en fait, on en a marre de se faire baiser, on sera peut-être pauvre, mais au moins, on ne se fera plus baiser, quoi.
Pour conclure cet échange, Yves, moi j'entends là-dedans qu'il faudrait que la société se punkifie. Est-ce qu'on peut tenter ce...
Ouais, là, on va peut-être un peu loin là, tu vois. Parce que bon, dans le punk, il y a le côté, il y a le yin, mais il y a le yang aussi. Hein. Alors, on n'est pas des saints.
Justement, c'est quoi l'envers un peu de la médaille?
On est des gens excessifs par certains côtés, tu vois. Mais si on n'était pas excessif, on ne serait plus là depuis longtemps. Tu vois, puis il y a le côté... ce qui n'est pas un mauvais côté, quoi. Il y a le côté libertaire, quoi. Maintenant, l'anarchie, ça se définit. L'anarchie, ce n'est pas le chaos. Hein. L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Donc, ça n'a rien à voir avec le chaos.
Ça reste à méditer, ça. C'est quelque chose qui n'est pas intégré par une majorité
mais parce
de gens,
que
on a ce sentiment-là.
C'est le problème des médias qui déforment tout. Il n'y a plus un mot qui est utilisé à bon escient. Ça, c'est un des fléaux aujourd'hui. On va te parler d'anarchie, ça veut dire sans pouvoir, anarchie. Ça ne veut pas dire chaos. Tu vois ce que je veux dire, l'étymologie des mots. Et alors, on a des mots, je pourrais te citer plein d'exemples.
C'est un peu la novlangue dont parlait Orwell dans 1984.
Ouais, c'est ça, ouais.
La guerre, c'est la paix.
C'est comme disait Jules César, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais en fait, Jules César passait son temps à faire la guerre. Tu vois, c'est tout la transition écologique, encore des mots qui ne veulent rien dire. Tout est comme ça. Tous les mots sont déformés. C'est comme le punk. Tout le monde est punk aujourd'hui, tu vois.
On peut acheter des t-shirts anarchie chez des marques de prêt-à-porter que je ne citerai pas là. C'est assez représentatif de l'époque.
Non, et Quepon, c'est pas ça. Hein. Quepon, à la base, c'est quand même quelqu'un qui préfère sa liberté à obéir, quoi. C'est quand même la désobéissance. Après, voilà, quoi. Bon. C'est un vaste discours, mais bon. Non, tout le monde n'est pas punk. Tout n'est pas punk.
Est-ce que, peut-être, pour finir là-dessus, la première des batailles, elle serait pas justement culturelle, linguistique? Vous parliez de ces mots qui sont utilisés à mauvais escient ou à dessein pour orienter.
Ça fait partie de la manipulation des masses, quoi. Hein, on l'a vu par exemple avec le mot anti-système.
Et tout le monde est
anti-système, tu vois. Quand il y a les élections, non, mais ça fait rire, quoi. On va dire Marine Le Pen, elle est pas anti-système. Hein. Tout Dupont-Union, toute la clique, tous ces gens-là sont pas anti-système. Il faut qu'ils arrêtent. Ils sont totalement dans le système, si tu veux. D'ailleurs, voilà quoi. C'est ça quoi.
Aux gens de se réapproprier la langue et le sens des mots.
Ben, je pense. Mais c'est vrai qu'avec les fameuses chaînes de radio, BFM, TV et compagnie, c'est des professionnels, les mecs. Hein. Je t'embrouille. Tu sais plus où t'habites. Il ne faut pas les écouter, sinon tu sais plus où t'habites. Voilà.
Merci à vous, Yves, chanteur des Sales Majestés. On va vous retrouver sur scène sur cette soirée. J'avais... Peut-être une dernière chose, est-ce qu'il y avait un lien avec les deux autres groupes avec qui vous partagez l'affiche ce soir? Il y a les Sales Majestés, il y a Black Bomba, Tagada Jones.
On se connaît bien, Tagada Jones, bon, on se connaît bien, on a fait plein de concerts ensemble, tu vois. Puis bon, c'est du hardcore punk, tu vois, c'est dans la même lignée. Enfin, c'est un peu plus hardcore punk que hardcore, mais c'est pareil. Et puis Black Bomba, c'est du métal, mais terrible, quoi. Et avec un esprit, une puissance super, d'ailleurs... le chanteur de Black Bomba, un des chanteurs, parce qu'il y a deux chanteurs, chante sur la chanson Apocalypse. C'est lui qui fait les chœurs et tout. Ouais, entre nous,
il y a des connexions.
Ouais, il y a plein de.
Merci à vous, Yves. On vous retrouve ici sur la scène du 106 ce soir, okay. En compagnie donc de Black Bomba et Tagada Jones.
Fin de mois, putain c'est la galère. Alors on bloque les ronds-points. On manifeste.
Radio Lomax.
Nous sommes maintenant avec Poun et Arnaud, les deux chanteurs de Black Bomba. Ah, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Salut.
Black Bomba, ça mêle la rébellion du punk, l'énergie du hardcore, la puissance du trash. Vous avez commencé au milieu des années 90. Qu'est-ce qui vous nourrissait musicalement à l'époque ?
Il y a un peu de disco aussi.
Un peu de disco ? C'était la base ?
Non, mais alors qu'est-ce qui nous nourrissait quand on était gamin, tu veux dire, c'est ça ?
Ouais.
Quand on était ado, je pense que plein de groupes... en commun, les Bad Brains pour moi, Dead Kennedys, GBH, Discharge, Exploited, ou, voilà, plein de groupes comme ça quoi.
Elton John,
Minor Threat, quand on était gamin. Elton John, tout à fait, Elton John, j'aimais beaucoup.
Et aujourd'hui
plein de trucs en fait.
Il y a des trucs d'aujourd'hui qui vous séduisent ?
Oui, bien sûr, il y a des trucs intéressants dans tout style musical. Non, c'est bien, il y a des bonnes choses. Il y a des trucs qui tournent toujours autour des mêmes choses, mais il y a des trucs qui sont intéressants. Ouais.
Poun, c'est pareil pour toi ?
Alors, j'ai pas pu entendre vraiment la question au début parce que mon casque était branché.
Qu'est-ce qui vous nourrissait musicalement au début, puis aujourd'hui, est-ce que voilà, il y a des choses contemporaines qui vous influencent d'une façon ou d'une autre.
Oui, comme Arnaud disait, c'est vrai qu'on a écouté un peu tous les mêmes choses. C'est parti du punk au metal, entre Slayer, Pantera, Exploited, Nail Bomb, enfin tout un tas de choses comme ça qui nous ont nourris. Parce que on n'est pas né hier, donc ça fait 26 ans qu'on a fait le groupe et qu'on a écouté de la musique bien avant, donc et du metal. Tous ces groupes-là qui ont un peu nourri tout le monde et puis maintenant oui encore d'autres choses on essaie enfin je pense qu'on s'ouvre un petit peu à d'autres choses moi j'aime bien écouter là en ce moment Daughters, il y a plein de trucs des trucs un peu plus barrés, ou Fever, j'aime bien Fever, Free, c'est pas mal.
J'imagine qu'il y a des liens avec les deux groupes avec qui vous partagez l'affiche ce soir. Tagada Jones, je vais y arriver.
Vous avez entendu parler de ce groupe ?
C'est quoi un peu les connexions entre vous ? J'imagine que ça date pas là du bouquet de cette soirée.
Arnaud sort avec Nicolas.
Voilà.
En fait,
il nous doit fou. ils ont commencé grâce à nous.
Ouais, bon, ça fait depuis longtemps.
On se connaît super longtemps, bien sûr.
On a commencé, ils ont commencé bien sûr leur carrière de leur côté en Bretagne et puis nous du côté de Paris. Mais on s'est rejoints assez vite. Il y a quand même, je sais pas combien, ça fait combien de temps qu'on a été, qu'on s'est rencontrés. Ça va faire une bonne vingtaine d'années peut-être. Entre 15 et 20 ans.
Enfin, ouais, 20 ans je pense presque.
Donc on se connaît, d'avoir fait pas mal de tournes ensemble et puis de se croiser et puis d'être venu enregistrer dans leur studio aussi.
Il y a une vraie proximité.
Il y a une grande histoire avec eux, carrément. Enfin, en tout cas, avec les Tagada, c'est évident. On a une longue histoire d'amitié avec eux. Ouais.
Plus globalement, c'est quoi votre regard sur la scène française, qu'elle soit métal, hardcore, punk ? Comment tout ça a évolué ? On parlait des liens avec Tagada Jones. C'est des formations, vous faites partie de cette génération, vous avez tous un peu évolué au même moment. Qu'est-ce que ça donne maintenant ? Votre regard un peu sur tout ça, quoi.
Très franchement, j'ai pas vraiment d'avis. Je sais pas où en est vraiment la scène française maintenant. Il y a toujours des fers de lance. Il y a toujours, enfin, tu vois, il y a du Lofo, il y a du Mas, il y a du Gojira, il y a du Tagada Jones, Ultra Vomit. Il y a des grosses têtes d'affiche, mais il y a quand même des groupes qui galèrent, qui en valent le coup. Et c'est vrai que pour signer chez un label ou pour avoir une agence de tour, ça devient de plus en plus galère, quoi, pour un groupe. Nous, on est tombé à un certain moment où c'était, je dirais pas facile, mais en tout cas, il y avait peut-être plus de portes ouvertes. Quoi, c'était un peu plus easy, mais là je sais pas comment font les mecs. Moi le conseil que je donne à un moment à tous ces groupes français, c'est pas forcément se faire chier, pas forcément insister en France et taper directement à l'étranger, surtout quand tu commences quand tu chantes en anglais. En tout cas, c'est d'aller taper directement, de se taper à l'export, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on doit rester en France. Et justement, c'est
limite à contrario, je pense que c'est même plus facile maintenant d'aller directement vers l'international maintenant. Que les gens se réfèrent plus à un groupe à la française, où on s'en fout maintenant un peu. C'est que c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de groupes, mais maintenant je pense qu'il faut y aller directement à l'international, comme dit Poun. C'est plus logique, pas plus facile, mais plus logique, je trouve.
Mais c'est
on peut plus se suffire de la France ou tu vois de la Belgique. C'est compliqué maintenant déjà pour faire des concerts. Tu vends plus de disques déjà. Si tant est que t'en vendais à l'époque, on en vendait à l'époque, mais maintenant c'est plus compliqué. Et surtout, il y a plus en plus de groupes. Avant, tu voulais enregistrer un truc, il fallait dans un studio, tu fallait avoir de la thune. Si t'avais pas un label, c'était de ta poche et fallait débourser. Maintenant, tu peux avoir ton petit studio chez toi, en fait. Donc il y a des tas de groupes qui débarquent. Moi, je trouve que c'est compliqué pour eux maintenant, je trouve, de sortir du lot en tout cas.
C'est peut-être aussi plus facile pour des groupes comme vous qui chantent en anglais pour aller à l'international, entre guillemets, c'est-à-dire que la langue française est pas forcément, on le sait, c'est pas celle qui est la plus diffusée dans le monde.
C'est pas la langue du rock'n'roll déjà.
De base.
C'est plus facile, peut-être, j'en sais rien, en tout cas, oui, ça donne un passeport pour pouvoir aller à l'étranger, mais d'un autre côté, ça reste quand même la même difficulté, il faut quand même sortir ce que t'as dans tes tripes. Prouver ta valeur quoi, en tout cas, donc c'est déjà, en tout cas, effectivement, si tu chantes en anglais, oui, tu peux déjà effectivement avoir, mais en même temps il y a un exotisme aussi, hein, je veux dire, il y a des groupes, tu vois, même Tagada, c'est pas parce que toi Tagada chante en français et ils ont fait presque plus de pays que nous, enfin
largement.
Ça tient pas forcément à ça.
Ouais, ça tient pas forcément à ça.
Non, mais après je pense qu'il y a un public pour de par les expatriés, tu vois, il y a un public à chaque fois, il y a moyen de jouer, mais je pense que tu te fermes quand même des portes en chantant en français, si tu veux jouer à l'international, ça me paraît évident. Enfin, je veux dire,
Vous le disiez, ça fait quelque chose comme 25 ans maintenant, un peu plus même, que l'aventure a démarré pour Black Bomba. Comment vous voyez toute cette histoire-là? J'imagine que vous n'envisagez pas la façon de faire de la musique de la même façon qu'il y a 25 ans. Comment l'état d'esprit ou la façon d'aborder tout ça, ça a changé pour vous?
Dans le studio de répète, si on essaie justement d'aborder la même façon de composer, en tout cas, d'avoir cette flamme que tu as quand tu montes ton groupe et que tu as envie de tout ravager. Je pense que c'est important pour perdurer, quoi. Quand tu rentres effectivement dans un système de composition où tu commences à calculer, à te dire machin, bon, après, c'est pas notre cam. Ça ne nous représente pas, en tout cas. Donc Black Bomb en studio, oui, c'est quelque chose qui doit être instinctif, animal et adolescent presque. Donc voilà pour ça. Après, pour le reste, effectivement, pour la logistique de ce qui se passe à côté d'un studio et de gérer financièrement le côté administratif, tout ce qui s'ensuit, on a un peu plus de mal parce qu'on est des punks, mais bon, on a des gens qui travaillent un peu avec nous pour pouvoir nous remettre un peu dans le droit chemin.
C'était pas forcément le cas au début d'être entouré par une équipe qui s'occupe du à côté, entre guillemets.
Ça arrive un peu après, je pense.
Et du coup, ça explique aussi pourquoi ça peut perdurer. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se structurer quand même,
il
faut être un peu plus organisé.
Il faut être pro parce qu'en face, si tu veux rivaliser, enfin, j'aime pas cette expression parce qu'il n'y a pas l'esprit de comédie soir, mais si tu veux rivaliser avec d'autres groupes, et tu te dois d'être en place, de ne pas déconner, faut que ce soit carré, quoi. Sinon, tu pars un peu en vrille. Alors déjà, en étant à moitié carré, tu as du mal. Alors j'imagine bien que si c'est bordel tout le temps, tu peux pas structurellement avancer, quoi.
C'est quoi un peu la façon de bosser pour vous, voilà, quand vous allez en studio? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour construire un morceau? C'est toujours la même ou on cherche fois dans d'autres directions?
On a cherché dans d'autres directions. Au bout de 25 ans, c'est vrai qu'on a eu plusieurs techniques, plusieurs façons de faire. On a déjà composé des albums directement dans un appartement, à composer sur Logic Audio. On a été plus d'un mois et demi, deux mois dans une salle de répète à se regarder des fois en chien de faïence, quoi. Et après, on a fait un mix de tout ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit, financièrement, on peut pas non plus prendre, tu vois, il y a un côté quand même assez financier, on peut pas non plus rester pendant deux mois dans un studio et payer à se regarder, aller chercher des cafés en attendant que ça se passe, quoi. Je pense qu'il faut faire ça un peu plus intelligemment, préparer en amont. Donc on prépare en amont, il y a le guitariste ou même le bassiste, ou chacun, si chacun a des idées, on prépare chez soi et puis on ramène tout ça un petit peu et puis on se prévoit une semaine ou deux où on commence à poser les premières idées et aller les bosser en live.
Vous parliez de l'aspect un peu financier, hein, le nerf de la guerre. Yves, le chanteur des Salles Majestés qui était avec nous tout à l'heure, disait, nous pendant un moment on a dû continuer à bosser à côté. Est-ce que c'est le cas pour vous ou maintenant vous vivez pleinement de la musique et est-ce que c'est simple
Bah, ça nous arrive, ça arrive de bosser à côté pour certaines personnes dans le groupe de pousser des caisses ou faire bosser sur d'autres plans. Mais principalement, c'est vrai qu'on reste dans ce milieu, dans le domaine de la musique. Il n'y a personne qui va faire, enfin qui va aller vendre des t-shirts chez Célio. En tout cas,
c'est un truc important, ça, de même si ok, on vit pas que du groupe, non, mais, de rester dans le monde de l'univers de la musique. Quoi.
Ça te laisse une certaine liberté déjà par rapport à un planning, disponibilité. Groupe, ouais. C'est vrai, c'est un peu le souci, parce que bon, après, de toute façon, oui, si tu dois gagner des thunes, y a pas, l'argent n'a pas d'odeur, on s'en fout, quoi. Mais le mieux, c'est de rester dans ton milieu et puis pour pouvoir.
Ouais, carrément, ouais. Bah, le truc, c'est que, comme disait Poun, si tu te débrouilles pour être disponible, donc on est tous enfermés dans le spectacle, donc du coup, même si on arrive à peu près à faire notre statut avec Black Bomb, bon, pour finir les heures, on bosse à côté, comme disait Poun, mais au début, ouais, au début, je pense que bah, même pour Poun, fallait aller bosser à côté à la poste ou n'importe où. Et puis, ouais. Et voilà quoi, mais après, on a cette chance de pouvoir se prétendre à pouvoir faire les cachets, donc à l'intermittence.
Mais c'est qu'à un moment, tu prends un risque en fait. Quand tu, ouais, quand ça, tu ouais. démarres ton ouais. groupe, tu as tout un tas de taf merdique ou pas.
Tu
en
fais
tout
un
cas,
pari, ouais.
Mais tu te dis, bon ben voilà, c'est le moment, et puis de toute façon, j'ai rien à perdre. Quoi.
Ouais,
c'est,
voilà, ouais, carrément.
Et c'est ce qui fait la différence des fois avec des groupes qui se disent « Ah, j'aurais dû essayer », et d'autres groupes qui se disent « Ben, j'ai essayé, alors ça a marché peut-être, ou ça marche pas,
ça marche
et puis
pas,
bah, tant
puis,
pis, mais en tout cas, tu as essayé. »
Ouais.
Comment ça se passe pour l'écriture, tous les deux, là, vous êtes deux chanteurs, est-ce que, pareil, il y a une même façon d'écrire, voilà, est-ce que vous arrivez avec des bouts de texte, comment ça s'agence, ça s'articule tous les deux, l'écriture des...
C'est un petit peu le premier qui peut poser un sujet, comme ça, s'il y a une chanson qui lui plaît, on se parle, et puis on se dit, tiens, bah, moi, je penserais, j'aimerais bien parler de ça sur ce morceau, et puis, voilà, si on est OK, chacun écrit ses parti et puis donne un peu, on essaie de faire une espèce d'effet ping-pong. Le premier commence à écrire, celui qui a lancé l'idée commence à écrire sur ses parties et le sujet, et l'autre répond par rapport à ce que l'autre a écrit, quoi.
Sur l'aspect du chant aussi, il y a deux techniques bien particulières. Alors moi, je suis pas forcément spécialiste du domaine, mais j'ai quand même un peu potassé le sujet, le growl, comme ça, c'est comme ça qu'on dit, d'un côté, le scream de l'autre. Donc un truc vraiment très caverneux pour le premier, un truc beaucoup plus strident, beaucoup plus aigu pour le deuxième. Comment on travaille voilà, cette façon de chanter et d'envoyer ses lyrics sur la scène? Est-ce qu'il y a des techniques
Oui, il y a des techniques. Alors moi, je ne les ai pas.
Fait comment, du coup?
Je le fais,
ouais,
c'est tout.
Naturellement?
Je le fais naturellement. Après, c'est une façon de placer sa voix. Et tu l'apprends le lendemain en te disant « Bon, bah, ça va, ça passe. » Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu peux être à faune. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Bah, ça m'est arrivé aussi, mais bon, c'est... Ouais, c'est bon. Oui, enfin voilà, moi j'ai pas vraiment technique, je saurais pas expliquer, vraiment je suis pas très pédagogue là-dessus, bon voilà.
Je suis assez autodidacte.
Chacun
aussi,
doit se démerder, de toute façon, c'est votre problème les chanteurs, démerdez.
Mais c'est vrai que...
Arrêtez avec vos formations là.
Faut mine de rien être prudent justement pour pas être confronté à l'extinction de voix à quelques minutes d'un concert.
Disons,
quoi.
Normalement, tu dois faire gaffe, mais c'est normalement.
Alors comment tu fais gaffe?
Bah, il n'y a pas de solution, normalement tu dois beaucoup dormir.
Manger, bien manger
et bien dormir.
Éviter de parler un peu
de parler
tout, sans
arrêt,
tout le temps ta gueule,
ouais,
et gueuler machin.
Voilà.
Pas fumer bien entendu, ne pas trop boire.
Normalement. Mais après je fais pas du tout ça. Donc mais après moi je suis peut-être moins chanteur. Honnêtement je me suis jamais considéré comme un chanteur. Dans ma tête je suis plus une espèce de vocaliste en fait presque. Tu vois ce que
Mais justement tu
ça correspond plus à ce que je fais.
Ouais mais tu utilises ta voix donc c'est vrai qu'il y a quand même, il faut quand même voilà que tu sais très bien que quand t'as abusé
trois jours avant c'est mort. Je sais très bien je vais merder. Enfin ça va être la merde.
C'est quoi la différence entre chanteur et vocaliste? Quelle est la nuance?
Pour moi c'est un chanteur, c'est un mec qui sait chanter, qui enfin tu vois qui a une formation classique, on va dire, le mec qui sait vraiment chanter, qui a une formation classique, quoi, de chant. Et vocaliste, pour moi, c'est vraiment à l'arrache, quoi. C'est pour moi
un screamer.
Bah, tu vois, le mouvement punk, pour moi, a été un des premiers mouvements où c'était plus pas des chanteurs, mais des vocalistes, selon moi, parce que tu t'en branlais. Je pense que du temps des exploités, de GBA, Discharge, tous ces groupes-là. Ils s'en battaient des couilles, d'être juste ou pas, c'était pas du tout le machin. Alors que dans le rock, maintenant, enfin, je trouve qu'il y a vraiment ce côté. T'as affaire à des mecs qui savent vraiment chanter, quoi. T'as des mecs qui. c'est vraiment
des points. Il y a du niveau.
Il y a des niveaux, ouais. Quoi.
Cette approche là justement, vous parliez du mouvement punk, voilà, bah on envoie ce qu'on a envoyé et tant pis si on chante pas juste, quelque part c'est pas ça le but du truc. Justement le but du truc c'est quoi? C'est d'exprimer une colère, un désespoir, un cri comme ça, et puis justement quelque part moins il est joli et dans les carcans et les codes habituels, mieux c'est.
Il y a un peu ça, mais il faut qu'il soit vrai déjà à la base. C'est que, effectivement, faut pas que ce soit une pâle copie d'un truc que tu as écouté, enfin, même si on l'a toussé, parce que quand on s'exerce à la voix, on essaie de ressembler à Mike Patton, Phil Anselmo et ce qui s'ensuit, quoi. Mais je pense que le truc quand tu fais cette musique-là, c'est effectivement, même si tu essaies d'atteindre quand même, pas une perfection, mais quelque chose d'assez léché, je pense quand même qu'il faut que ce soit viscéral et qu'il y ait quelque chose quand tu gueules un truc, faut pas que ce soit forcément un truc en disant tiens j'ai bien fait la note.
Voilà, faut pas que ce soit surjoué.
Je pense que des fois il y a des gueules, je sais pas comment on peut dire ça, des cris qui peuvent être complètement faux, mais en tout cas qui peuvent être viscérales et qui peuvent avoir une puissance vachement plus intéressante qu'une note qui est super touchant, juste.
C'est clair.
Cette sincérité, cette colère, ça va aussi avec des textes. Moi, je reprends un peu sur le dernier album, il me semble, il y a un morceau, c'est Civil War. Là, vous êtes dans une tournée Riot Tour. On sent que ça va saigner. Là. Ça fait le lien entre la forme, on parlait de cette façon de chanter, et puis ce qui est exprimé, la façon dont elle est exprimée. Voilà, on renoue, enfin, il y a un lien évident avec le punk, le hardcore, cette portée sociale et politique. C'est quoi un peu votre vision, votre approche par rapport à tout ça? Comment vous inscrivez dans cette dynamique-là, vous?
Alors, on n'est pas un groupe. D'ailleurs, le dernier album est peut-être l'album le plus engagé qu'on ait pu faire, engagé conscient, on va dire. Mais on n'est pas un groupe très politisé ou très. Tu vois ce que je veux dire? On n'a jamais trop donné nos opinions. On n'est pas là pour dire à quelqu'un comment il doit se comporter ou qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pas notre. Enfin, je pense. Je parle pour moi. Là, hein. Et on n'a jamais. Je pense que le dernier album, il paraît peut-être plus engagé, mais il est peut-être plus en rapport avec notre époque. Qu'est-ce que nous, on vit chacun et je pense que les albums qui ont été faits avant abordaient aussi peut-être des sujets qui étaient dérangeants, qui étaient pas normaux. Mais c'était moins incisif. Là, c'est très incisif, je trouve, dans les textes. On est peut-être plus dirigé, peut-être sur ce qui est montré du doigt, les choses qui sont négatives dans ce qui nous entoure. Mais on n'est pas. J'ai jamais considéré qu'on était politisé. Il y a toujours un espèce de double langage dans le texte.
Non, non, puisque de toute façon, on a vraiment tous des avis un peu différents. On se rejoint vraiment vers une unité un peu. Vers une solidarité humaine dans Black Bomb, on a vraiment une façon de penser quand même qui essaie de se tendre vers le haut, mais on pense pas forcément des fois dans certaines choses la même chose, et c'est ce qui fait une
espèce de... Moi je suis pro-Trump, tu vois, lui il est contre Trump, tu vois.
Un peu dans la vous croire néanmoins.
C'est qui ce mec, c'est qui?
Trump, je connais pas non plus.
Pour terminer là-dessus, peut-être, vous disiez quand même que voilà, sur ce dernier album, c'était un peu le reflet de votre vision de l'époque, concrètement, pour résumer, ce serait un peu quoi? On va vers quoi là?
Ce serait être fataliste et nihiliste de dire on va vers la merde, quoi. On va vers le down, le en bas, la merde. Mais d'un certain côté, je pense que de plus en plus, il y a des gens quand même qui essaient de relever le niveau et de faire en sorte que ce monde quand même qu'on s'en sorte, quoi, qu'on essaie de faire des choses quand même plutôt positives, quoi. Donc effectivement, des fois dans nos textes c'est assez négatif, mais c'est un constat, et ça veut pas dire que c'est ça y est, c'est mort, c'est comme ça. On veut, et c'est à nous aussi de mais c'est pas parce qu'on le pense, en tout cas c'est pas parce qu'on va se dire que il faut sauver les bébés baleines qu'elles vont
être sauvées pour autant,
et voilà. Je pense que, et en même temps, ce n'est que de la musique, tu vois. C'est vrai qu'il y a un message quand même derrière, et qui est important, mais on n'a pas écrit Imagine non plus, quoi. Et pour l'instant, je crois que tous ces gens, tous ces industriels, ils n'en ont rien à branler de notre musique. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à branler déjà de nos présidents, machin. Ceux qui gèrent tout, ils sont en train de nous niquer avec le capitalisme et tout ce qui s'ensuit, et puis ils sont en train de pourrir notre planète. Donc, bon voilà, après qu'est-ce que tu veux faire?
Ces gens-là, en l'occurrence, on n'a pas forcément un grand intérêt pour Black Bomba. Par contre, ce soir, je crois que la salle est complète. Donc, il y a quand même, mine de rien, un public qui est prêt à aller voir du punk, du hardcore, du punk hardcore.
On les a payés. Mais,
ça m'a coûté un bras. Hein. J'ai déjà à faire après pour moi. Je vais m'acheter une baraque, c'est mort. Hein.
En tout cas...
Après, si je peux me permettre, après, il est bien évident qu'on est... Notre confort de vie, actuellement, il est bien plus... meilleur que l'ont été nos parents, ce qu'ont vécu nos grands-parents, etc., bien, bien avant. Donc mais il y a ce côté un peu. Ils volent, mais à double face. C'est-à-dire qu'on te donne une espèce de confort, souvent on te fait croire à les choses, mais de l'autre côté, il est très dark, en fait. Donc, j'ai l'impression que les gens s'endorment un peu, malheureusement, sur ce qui se passe, et j'espère que ça changera, que nos enfants, nos petits-enfants vivront les choses encore plus cool que ce que nous on a vécu, mais on n'a pas trop à se plaindre de notre point de vue occidental, tu vois, on est plutôt pas mal.
Moi je m'en fous, hein, tant qu'il y a les Marseillais à la télé, il peut se passer tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles.
Si je peux donner une idée à Nuna, si président, porte-toi président, mec.
Eh ben, écoute, hein, si nous entend de là où il est.
Ah ben, à mon avis, il sera, enfin je pense, hein, il sera aussi con que les mecs qui nous dirigent, donc tu vois déjà.
Moi je serais un vrai connard en plus, hein, si j'y étais, moi je serais pareil aussi.
Ah moi tout pour moi, hein. Moi je m'en mettrais plein les fouilles à la Chirac, moi je me ferais les bouffes d'enculés.
En tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite, Poune et Arnaud avec Black Bomba, on vous retrouve.
Il va y avoir une nouvelle affaire des diamants.
Eh bien c'était super, c'est tout ce qu'on vous souhaite, merci messieurs.
Ouais, alors,
je peux vous jouer une petite chanson peut-être. Oh alors... we are change, we give peace a chance.
John Lennon aussi, ça n'a pas forcément été cité comme influence en début d'échange.
Non, moi j'ai pas trop aimé la période Yoko Ono.
Merci à tous les deux, Poune et Arnaud de Black Bomba, d'être passés par nos
micros. Merci beaucoup, merci à toi.
On vous retrouve évidemment ici sur la scène du Sensis.
J'ai un petit
message. On a un local dans le groupe, on a un mec qui est du coin, il s'appelle Jacou. Ouais. Si ses parents écoutent, dites-lui de se calmer. Hein. Merci.
La révolte gronde.
Ouais, attention.
Radio Lomax.
Et on va vous laisser avec la playlist de la web radio du 106 avant de retrouver un tout petit peu plus tard Nico de Tagada Jones à nos micros.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Pour les concerts au 106, rendez-vous à la rentrée en janvier. Et pour la prochaine émission, rendez-vous la semaine prochaine. Motherfucking door.